Non, non, non.
Impossible, impensable. Nos parents ont cette terre depuis des lustres. Alors pourquoi la lâcher aujourd'hui ?
Non.
Non, c'est non. Et il y a cette phrase que j'adore, c'est « Quelle partie du mot non ne comprenez-vous pas ?»
Épisode numéro 5, des peuples menacés.
On leur a dit, nous on aura ta terre, on va se battre. C'est notre territoire, alors s'il faut mourir, il faut mourir sur place.
Voyage en terre indigène.
Allô ?
Une mémoire des hommes qui s'efface.
Anna.
Une série d'Anne Pastor. Indiens, pygmées, inuits ou aborigènes, ils sont près de 370 millions à vivre en Amérique, en Amazonie, en Afrique ou en Australie. Souvent réduits à l'image de primitifs, ces peuples menacés par la mondialisation sont pourtant notre mémoire et les gardiens de savoirs ancestraux. Alors, peut-être est-il temps de les écouter. Aujourd'hui, direction l'Éthiopie et l'Équateur. En Amazonie, les compagnies pétrolières du monde entier convoitent les richesses du sous-sol. Face à elles, 1200 Indiens Quichua résistent pour protéger leurs terres et faire reconnaître leurs droits. Une question de vie ou de mort. En Éthiopie, les Mursi, eux, sont déjà presque à l'agonie. Ils ont été regroupés dans le parc national de la vallée de l'Omo, où ils sont offerts en pâture aux touristes. Et aujourd'hui, ils sont directement menacés par la construction d'un barrage. Deux peuples, deux continents et une même question, comment survivre dans le monde d'aujourd'hui ? Vous êtes en terre indigène, sur France Inter.
1, 2, 3,
en Éthiopie, je les remercie.
1, 2, 3,
entouré de tous ces Taïwanais qui sont là dans ce village touristique. Alors tout autour de nous, voilà, des femmes, des enfants Mursi. Ils ont mis la plus belle de leur panoplie, des fausses peintures, totalement factices, puisqu'en fait ils ne mettent pas du tout ce type de peinture blanche. Tout ceci est exclusivement fait pour les touristes. Voilà, puis alors là on les voit tous en train de faire des photos, de donner des billets. Voilà, et ça ramasse. Hein. Voilà, il y a même un monsieur qui est en train d'attraper mon bras et qui me dit photo, une photo contre 2 dollars. Alors certains sont un peu plus agressifs et prennent directement l'argent qui est dans la main. C'est vraiment une situation extrêmement particulière. Hein. Bonjour, vous êtes donc la guide de ce groupe chinois, taïwanais, en visite ici en Éthiopie. Et vous venez visiter les tribus du Sud et en particulier les Mursi.
Oui, aujourd'hui c'est facile de voyager dans le monde entier et de visiter différentes villes, différents pays. Mais les gens veulent maintenant voir des choses originales. C'est pourquoi la visite chez les Mursi est si intéressante.
Vous allez dormir chez les Mursi ?
Non.
Why ?
Tout d'abord, ils ne pourraient pas s'adapter à ce type d'environnement. Pour ce genre de visite, une heure, ça va. Mais les gens ne se sentiraient pas bien s'ils devaient rester plus longtemps.
Avez-vous peur ?
Bien sûr, un peu. Parce qu'ils sont un peu agressifs. Vous devez leur montrer l'argent d'abord. Combien vous allez payer avant de prendre des photos?
On a l'impression qu'on photographie comme des animaux dans un zoo.
Non. Au début, on plaisantait en disant qu'on allait voir les gorilles. Mais notre guide nous a demandé de ne pas dire ça, en nous expliquant qu'ils étaient juste un peu sauvages et que ses ancêtres vivaient comme ça. Maintenant, on pense que ce sont des êtres humains, juste un peu différents. et que c'est une chance de pouvoir les rencontrer.
Les plateaux, les peintures, c'est tout ça, c'est pour vous, pour les touristes.
Mais c'est leur tradition. S'ils arrêtent, les touristes ne viendront plus. C'est comme avec les gorilles, quand on ne va pas les voir, ils se font tuer. Je ne pense pas qu'ils soient tristes de gagner de l'argent de cette façon. Et on ne peut rien faire d'autre, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être qu'avec notre argent, ils vont à l'école et évoluent, qui sait.
La vallée de l'Omo, au sud de l'Éthiopie, est un des endroits les plus protégés d'Afrique. Grâce à cet isolement, les Mursiers ont conservé leur culture et leur mode de vie nomade. Ils sont considérés par certains comme les descendants de Lucie ou les derniers sauvages de la planète. Et c'est sur leur corps que tous affichent fièrement leur identité à travers des peintures, des scarifications ou les plateaux labiaux des femmes qui symbolisent la beauté et le courage. Les Mursiers vivent au cœur d'une nature entière mais hostile et doivent sans cesse se battre contre leurs ennemis héréditaires, les 14 tribus voisines, pour des questions de pâturage ou de vol de bétail. Mais aujourd'hui, leur mode de vie est menacé, leur terre est devenue un parc national qui reçoit plus de 20 000 visiteurs chaque année.
Les touristes sont contents en fait de venir ici parce qu'on est belle. Si on n'a pas cette beauté-là, cette décoration-là, il ne vient pas.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois d'être une bête curieuse ?
Ça fait un boulot. En fait, comme ce n'est pas la saison qu'on fasse la culture, là maintenant, quand il y a des touristes, je fais ce métier-là. Et alors, quand il peut, je fais de l'agriculture. Et là, je rentre en fait la moisson et après je recommence.
Combien d'heures par jour vous le portez ce plateau pour les touristes?
Maintenant je le porte en fait jusqu'à ce que les touristes repartent et après je m'enlève.
Je m'appelle Jean-Baptiste Exé et je travaille sur les Mursiers maintenant depuis près d'une dizaine d'années. Les Mursiers sont une population d'environ 10 000 habitants qui vivent dans le sud-ouest éthiopien, le long du fleuve Omo, donc dans la dite vallée de l'Omo. Donc les Mursiers déclenchent toujours cette double réaction de fascination du fait qu'ils seraient les témoins d'une préhistoire qui est perdue et en même temps d'une ornementation très riche, très originale. Et en même temps cette rupture qui est plus de l'ordre du rejet, puisque quand même une femme avec un plateau labial dans la bouche, c'est quand même un signe de barbarie. Il y avait même un mot qui est celui de Shankila, qui peut se traduire tantôt par nègre, tantôt par esclave. Et globalement, il y avait cette discrimination qui reposait sur le fait que des personnes nues dans leur brousse, avec leurs vaches, un peu agressifs, on les voit comme des témoins d'une préhistoire, alors qu'ils ont une histoire extrêmement dynamique. Ils sont confrontés en ce moment à des logiques de fixité territoriale, de la part du gouvernement et culturel par la promotion d'un folklore vis-à-vis des touristes.
Par les photos, les touristes, en fait, je peux gagner de l'argent, on gagne de l'argent, je peux acheter des médicaments pour mes bétails. Et alors avec l'argent que j'ai gagné aussi, je mange. Est-ce qu'elle va nous prendre en photo là maintenant?
Moi, je veux pas faire de photos, ça m'intéresse pas.
Et si vous prenez pas de photos, pourquoi vous êtes venu alors? Alors, j'ai passé beaucoup de temps avec vous.
Maintenant,
alors,
il faut payer.
Le rapport très particulier avec la photo chez eux, c'est l'argent. Moi, ça fait 28 ans que je fais ce métier. J'ai vu une accélération de la monétarisation de prendre une image partout dans le monde entier.
Pierre de Vallombreuse est photographe. Il a découvert les Mursiers au cours d'un reportage en novembre 2000.
C'est un peuple très esthétique. C'est des peuples où il y a quand même un art de la décoration corporelle avec aussi des oreilles qui sont distendues avec des pendentifs très lourds. Donc on a des peuples qui développent une esthétique corporelle importante pour la beauté, mais c'est aussi des passeports. On sait exactement, suivant le type de scarification, de peinture qu'on porte, ou de tatouage dans certains peuples, à quel clan on appartient, son statut, si on est marié, jeune, c'est un peu sa carte d'identité. Donc le rapport très fort avec l'image, à eux, c'est purement de l'argent. Point à la ligne. Des touristes débarquent et se précipitent en courant sans même dire bonjour, font des photos, on distribue un peu d'argent, on jette des bonbons par là, ou même j'en vois qui radinent en disant « Attends, je t'ai donné deux bonbons, je peux faire une photo ?» Ou les gens demandent « Allez, un demi-euro, ah mais tu m'arnaques et tout. » Donc on voit une obscénité totale parce que ces gens ne sont pas dans la rencontre et ne voient dans ces êtres que des objets voilà qu'on va consommer, on va tirer une photographie, mais il n'y a pas un être humain, il n'y a pas le désir de faire une rencontre, de bavarder, d'être... Non, c'est tout d'un coup le petit cliché qu'on va ramener pour prouver qu'on a été le millionième ou le milliardième petite photo. C'est extrêmement obscène. Il n'y a aucun désir de rencontre, de compréhension, d'apprentissage, de connaissance. Donc ça veut dire que ces gens-là, on les méprise finalement. Alors ma première rencontre avec les Merci, oui, j'étais parti avec une jeune journaliste pour le magazine Géo. Donc on arrive en avion dans une petite bourgade qui s'appelle Toum. Et quand on arrive dans ce petit village qui était le point de départ, on nous raconte que ça va être plutôt problématique d'y aller parce que voilà, il y a une guerre entre différentes ethnies qui s'est déclenchée, dont les Merci avaient le rôle d'attaquants, piller, attaquer des villages pour donner accès à leurs troupeaux au point d'eau. Ces Merci avaient été eux-mêmes délogés par les Nyangatom, qui est un groupe extrêmement guerrier, puissant, et qui cette année-là, grâce à l'extraction de l'or, avait pu avoir pas mal d'argent et avait acheté des lance-roquettes, des kalachnikovs. Donc, ils avaient une puissance d'armes nettement supérieure aux Murci, qui sont même assez bien armés, on voit de kalachnikovs et de plein de fusils. Mais voilà, les Nyangatom avaient une très bonne année. Donc, et comme les Nyangatom souffraient de sécheresse, donc c'était un petit peu le jeu de domino. On a souvent ça chez les peuples d'éleveurs de bétail, parce que qui dit élever du bétail, c'est avoir accès à des pâturages et de l'eau. Alors quand tout va bien, qu'il y a une bonne saison des pluies, que l'eau est bien, on reste chez soi. Quand il y a pénurie, on est obligé d'aller chez le voisin. On a affaire à des peuples qui sont plutôt guerriers. Donc les gens disent, mais n'y allez pas, n'y allez pas. Alors, pour arriver au Merci, on a loué deux mulets. Avec nos mulets, on a traversé des villages qui étaient complètement incendiés. Les Merci étaient passés par là. Voilà, donc on a cheminé pendant un moment, des paysages en plus magnifiques.
Vous êtes un terre indigène sur France Inter. En Éthiopie, chez les Merci.
C'est des collines, il y a des petites montagnes, tout d'un coup il y a des petites plaines, c'est souvent une savane, les arbres sont très rares, c'est broussailleux, c'est épineux à certains endroits, c'est très caillouteux. Donc il y a des moments où tout d'un coup on est dans des trucs extrêmement arides, comme ça on monte, et puis on débouche tout d'un coup sur une plaine, une espèce d'oasis comme ça magnifique, où là c'est vert, il y a plus d'arbres. Et je me souviens qu'à certains moments, notre maigre caravane, on croisait tout d'un coup, il y avait à peu près 200-300 Merci en armes avec des femmes qui passaient. On se dit, ça peut déraper et il y a le conflit, mais c'est pas parce que les gens sont guerriers, qu'ils ont des armes, qu'il n'y a pas une règle à tout ça. La règle, c'était pour eux d'aller avoir accès à des points d'eau et à des pâturages. On était arrivé finalement dans le premier village de Merci. Il y avait une petite rivière et on était transpirant, sale, dégueulasse. Donc on se baigne. Et tout d'un coup arrivent 3-4 guerriers. Donc ils étaient un petit peu... Tiens, c'est pas des gens normaux par rapport aux touristes qui viennent. Donc ils étaient un peu... Je sentais qu'on les avait un petit peu surpris comme ça. Ce qui fait que j'ai pu faire des photos de ces guerriers qui étaient en train de se peindre le corps. Ce qui m'a le plus frappé, c'était la stature de ces corps extrêmement fins, musclés, totalement adaptés à des vies de marcheurs. Voilà, on a une espèce de puissance sèche comme ça, et extrêmement forte. Ils sont fiers, et là, ils sont prêts à partir, ils ont leur kalachnikov sur le truc, puis j'ai fait les 2-3 photos, et ils nous ont même pas demandé un sou.
Jean-Baptiste Aizé, anthropologue.
En fait, c'est simplement voilà, des grands éleveurs très fiers de leurs animaux. Ils ont un ensemble de pratiques qui incluent les bovins dans leur vie sociale. Ils ont une économie mixte qui mélange l'activité pastorale, donc ils ont des grands troupeaux de vaches, et de l'autre côté, une agriculture et une cueillette, parfois un petit peu de chasse. Et c'est, depuis qu'on les connaît, en tout cas, des groupes qui ne cessent de s'assimiler les uns les autres, de se scinder, de migrer, d'entrer aussi en conflit, souvent autour de vols de bétail. Donc c'est quand même des populations qui sont habituées à être confrontées à une difficulté du monde et à y faire face avec une résilience surprenante.
Alors, est-ce qu'elles ont toutes un petit nom ?
Celui-là, il s'appelle Abakorito.
Ça veut dire quoi ?
Une vache tachetée. Et le troisième s'appelle Olik Siroa.
Et ça veut dire quoi ?
Noir et blanc, mais le noir est fade.
Toujours on définit par la couleur.
Et celui-là s'appelle Morabilecho. La couleur jaune, mais couleur jaune faible.
Ah.
Et je me dis, c'est la couleur qui est au milieu de la couleur du drapeau éthiopien.
Et alors donc, on a vu le nom des vaches, et vous, vous vous appelez Oli. Toula, ça veut dire vache, et Toula, c'est quoi ?
Toula malet kournaken. C'est rouge et noir. Voilà, c'est le nom que m'a donné mes parents. Achoué. Ngamia bio. Les vaches sont très importantes parce que ce sont des vaches qui nous donnent du beurre, du lait et puis la viande. Et alors, on ne peut pas estimer l'importance des vaches.
C'est une relation très très forte entre vous et les vaches. Quand elles sont malades, elles peuvent dormir dans la maison. Dès le plus jeune âge, les enfants jouent avec les vaches. Ce petit garçon, il est au milieu des vaches et il s'est enduit de bouse de vache. Pourquoi ?
C'est la crème solaire.
Vous-même, vous les protégez. Et je crois que pour un mariage, une femme vaut 38 vaches. Plus une kalachnikov.
On a besoin en fait de kalachnikov parce qu'il y a des hyènes qui viennent manger, attaquer nos vaches.
Vous êtes heureux comme ça ?
Écoutez, c'est comme nous, leur vie aussi. Ils ont besoin de dormir, de se lever très tôt, de manger, voilà, de redormir comme nous.
Ah voilà, c'est une vie de vache, ouais. En fait.
C'est bien. Écoutez, vous comparez votre vie avec l'argent. Nous, on les compare avec les vaches. Même si on s'est éduqué, on va à l'école, on a assez d'argent et tout ça, voilà, on aura besoin toujours de nos vaches.
Le gouvernement n'avait pas du tout investi le sud de l'Éthiopie jusqu'à la fin des années 80. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'or, il n'y avait pas de pétrole. Donc on laissait les tribus du sud qui vivent avec leur bétail nu. Et c'est que depuis peu de temps où on s'est aperçu qu'il y avait quand même un fleuve, qu'il y avait quand même des possibilités de faire des cultures, qu'il y avait aussi le tourisme qui pouvait se développer là, qu'on les prend en compte. Quand le gouvernement vient prendre un territoire, dans le fond, c'est pas très grave, en fait. C'est plutôt les conséquences collatérales, proposées, même imposées, qui posent problème.
La part qui est en train de nous demander, en fait, de sortir de cet endroit-là, on nous dit de se déplacer, en fait, d'aller ailleurs, mais on n'a pas d'autre choix, on ne peut pas bouger. Il y avait l'administration du parc national qui sont venus, en fait, pour faire la paix. On leur a dit, nous, on n'aura pas peur du tout, on va se battre. C'est notre territoire, on ne va pas sortir de là-bas. Alors s'il faut mourir, il faut mourir sur place.
Ce qui est demandé de la part des gestionnaires du parc, c'est de sortir de ce parc-là. Avec l'exclusion d'aller au point d'eau, l'exclusion de rejoindre les pâturages les plus verts, l'exclusion de cultiver dans certaines zones à côté de fleuves, à côté de rivières, là où l'agriculture peut être assez fiable. C'est la manière d'exclure des droits de passage et des droits de cojouissance d'un territoire qui, là, va gêner les Mursiens.
Petit à petit, le territoire de Mursi rétrécit. à coups de checkpoint, de clôture ou d'interdiction. Avec le parc national, le gouvernement a déplacé les tribus en les installant dans des camps. Il vient de céder une partie de leur territoire à des compagnies étrangères pour la production d'huile de palme ou de coton. À chaque fois, c'est un peu moins de liberté pour ces nomades et leurs troupeaux. Mais c'est aussi leur survie qui est en jeu, avec la construction d'un barrage sur l'Omo, le plus grand de tout le continent africain. Un barrage qui détourne les eaux du fleuve dans une zone où sévit déjà la sécheresse et où 1,5 million de personnes souffrent de famine. Il n'y a plus d'eau, plus d'herbe, et les vaches tombent comme des mouches.
La raison qu'on est obligé d'aller à la rivière cultiver au bord de cette rivière, c'est parce que on n'a pas d'eau ici. Et puis, comme on est nomade dans notre culture, on se déplace. Ce sont les jeunes garçons bergers qui vont avec les bétails pour les pâturages. On cherche à l'eau aussi à la rivière. Avant la construction du barrage, on avait plein d'eau. Et alors, on utilisait l'eau comme on voulait, autant qu'on voulait. Et ça coulait bien, on cultivait au bord de la rivière, c'était bien. C'était après la construction de ce barrage-là, en fait, que là, maintenant, on a de moins en moins d'eau. On ne sait pas ce qu'on va faire, parce que l'autre fois, ils ont essayé de creuser, en fait, un puits, qui est inutile, d'ailleurs, parce que il n'y a pas d'eau qui s'accumule dans le puits.
Il y a dans cette problématique de l'eau des enjeux économiques très grands, car il s'agit de produire des barrages hydroélectriques dont une grande partie de cette énergie sera vendue aux pays voisins, donc une ressource financière extrêmement grande et qui, de manière effective et sincère, pourrait aider toute une partie de l'Éthiopie qui est extrêmement pauvre. Donc effectivement, l'idée du gouvernement de créer des champs qui permettraient d'avoir un travail pour chacun des morsis, d'avoir une maison, d'avoir de l'électricité, d'avoir des routes, c'est, dans leur façon de penser, quelque chose de sincèrement bien. Je suis certain qu'ils veulent apporter la civilisation, le problème étant que c'est leur façon de voir les choses et que les morsis en face n'ont peut-être pas la même.
Sans bétail, on n'existe pas. Voilà. Et là, nous, on n'a pas le choix. Tant qu'on n'a pas d'eau, on attend la mort.
Par
exemple, les anciens comme ça, ils passent toute la journée sans boire de l'eau, sans prendre une douche toute la journée. Par exemple, le monsieur, cette bouteille d'eau, en fait, qu'il a gardée pour 5 jours. Ce qu'on veut des autres, c'est l'eau propre.
Quand on a des maladies,
et alors il y en a plein qui sont morts à cause de ça, on s'est demandé pourquoi les gens sont morts. Et alors, on a bien réfléchi, on croit bien que c'est à cause de la manque de l'eau propre. Pour qu'on vive bien, on a besoin de l'eau propre.
Vous êtes un terre indigène sur France Inter. En Éthiopie, chez les Merci.
Ça fait longtemps, en fait, que nous souffrions, en fait. Vous n'êtes pas la première, en fait, de venir ici nous parler de notre problème d'eau. Il y en avait plein avant vous. Il y aura peut-être des autres derrière vous. Et alors, c'est pas parce que vous venez d'arriver là aujourd'hui qu'on aura la solution à notre problème. C'est comme ça, on en a marre, en fait, de plein de questions qui ne nous font rien du tout. Et alors, qu'est-ce qu'une étrangère comme vous pourra faire pour nous? C'est que les journalistes y vont, en fait, leurs informations. Alors, renvoyez encore et arrive à notre série de journalistes. qui gagnent de l'argent, plein d'argent, et puis retour chez nous, nous on gagne rien, on touche rien du tout quoi. On en a marre. Il dit on en a marre, mais là il me dit qu'il faut donner en fait. On a fait une réunion, il faut donner aux anciens qui sont fatigués
un peu de tabac,
un peu d'argent.
Évidemment, ça, on n'avait pas vu le coup venir, mais il y avait depuis quelques années, en gros depuis 2010 de manière très concrète, des projets de plantation de canne à sucre, essentiellement, et d'huile de palme, par des entreprises malaisiennes. Avec l'effet paradoxal que une partie, une grande partie même de ces plantations, va avoir lieu sur l'endroit même des parcs nationaux. Et donc aujourd'hui, il y a une menace qui est forte et violente. Là, on leur demande vraiment de quitter des zones immenses. C'est 30% de leur territoire qui va se retrouver transformé, ce qui implique évidemment en marge des constructions de villes, des constructions d'infrastructures. Et ça va impliquer aussi qu'une partie grandissante des morsies va être sollicitée pour être sédentaire. Du coup, un sédentaire, ça ne pose plus de problème de gestion de bétail. Et en plus, ça paye des impôts. Et en plus, ça peut être salarié. Du coup, on attend aussi des morsies, in fine, qui soient salariés dans les plantations de canne à sucre.
De nombreux changements vont avoir lieu dans la communauté. Les morsies seront sous pression. C'est mon souci à l'avenir. Si les morsies sont dans des réserves, il y aura beaucoup de problèmes parce que les gens boiront de l'alcool, peut-être qu'ils se battront. Nous voulons que les morsies se déplacent librement, là où il y a les ressources, là où il y a de l'eau et là où les vaches peuvent survivre. Je sais qu'il y a des difficultés, mais j'encourage ma communauté à vivre sa vie. Beaucoup de personnes, même les travailleurs communautaires, viennent et nous demandent pourquoi nous ne changeons pas notre culture. C'est pas bien. Nous devons être éduqués. L'éducation peut être positive, mais parfois elle peut créer des problèmes. Si une personne n'a pas d'argent, que peut-elle faire? En tant que Mursi, nous dépendons du bétail. N'importe quelle culture peut changer. Certaines choses changeront, mais nous ne voulons pas de contrôle. Nous voulons vivre libre.
Le gouvernement entend bien moderniser et normaliser les Mursi, quitte à réduire à néant leur identité et leur mode de vie. Selon un observateur de Survival, cette association de défense des peuples autochtones, les forces de l'ordre répriment, emprisonnent, torturent ces tribus du sud de l'Éthiopie. On parle même de viol pour réduire au silence toute opposition à la spoliation des terres et au détournement des eaux. À plus de 10 000 km de là, en Équateur, ce n'est pas l'eau, mais le pétrole qui menace les Sariaku. Au cœur de l'Amazonie, les compagnies pétrolières convoitent les richesses du sous-sol. Face à elles, 1200 Indiens résistent pour protéger leurs terres et faire reconnaître leurs droits. Une question de vie ou de mort.
Le gouvernement veut nous contrôler. Nous revendiquons nos droits, notre culture. Ils veulent venir ici sur nos terres. Les compagnies veulent venir pour gagner de l'argent. S'ils entrent ici, nous perdons tout. Ici, il y a beaucoup de plantes médicinales, de grands arbres. Et si tous les 100 mètres, ils font exploser de la dynamite, tous les esprits des arbres vont disparaître.
Vous êtes un terre indigène. Sur France Inter.
Oh,
Indigène sur France Inter.
On pourrait dire que c'est un peu comme le Larzac, si on voulait oser un parallèle.
En Amazonie, chez les Saliaku d'Équateur.
Mais il y a aussi autre chose, c'est une lutte à mort, il faut comprendre ça. Les Sarayaku luttent désespérément pour leur survie en tant que peuple. Et c'est ça qui est en jeu. Face au pétrole.
Nuestras comunidades al principio han abierto las puertas porque pensaron que era
au début,
una de las formas de
nos communautés ont ouvert leurs portes aux pétroliers pensant qu'ils représenteraient une certaine forme de développement.
La gente pensó que iban
ils apporteraient le progrès du travail et du confort
pour tous. Todas las comodidades necesarias. Sin embargo, ha transcurrido ya más de 20
ans. Après plus de 20 ans, c'est tout le contraire.
Las comunidades se han denigrado.
Ces communautés vivent moins bien que celles qui n'ont pas d'exploitation pétrolière sur leur territoire.
Une
entreprise pétrolière arrive avec tout son personnel. Ils ont besoin d'ouvriers spécialisés, mais les paysans locaux sont juste bons à creuser des tranchées. Nos ancêtres savaient ce qui allait arriver.
El petróleo es la sangre.
Il nous disait que le pétrole est le sang de la terre et que si on te prélève ton sang, tu meurs.
Moriríamos. Eso es lo que pasaría aquí en la Amazonía.
Nous disait que c'est ce qui arriverait ici en Amazonie.
Todo el petróleo de la Amazonía quedaría.
Si on prenait tout le pétrole, elle deviendrait un désert.
Una sabana verde desierta.
Une étendue verte, mais sans vie.
Il y a 20 ans, en Amazonie, des tribus indiennes ont cru à la richesse et au progrès promis par les compagnies pétrolières. Quelques années plus tard, elles n'ont reçu que des cadeaux dignes du temps des conquistadors où l'on échangeait de l'or contre des pacotilles. Des cahiers d'école, des ballons de foot, du lait concentré. Un marché de dupes et un ticket pour l'enfer. La décision des Sarayaku est prise. Pour ces 1200 Indiens, descendants des Incas, c'est non. Et ils seront 1200 à s'opposer à la puissance des multinationales. En 1996, le gouvernement autorise les travaux d'exploration pétrolière sur leur territoire sans même les avoir consultés. Ils décident de tenir bon et ce sont les femmes qui vont mener le combat. Christina Gualenga se souvient du jour où tout a basculé.
Les militaires se sont cachés dans la forêt, dans la zone où on était en train de creuser la tranchée, et ils ont installé un camp de base. Ils étaient là, cachés. Nous avons vu un hélicoptère arriver vers cette zone là-bas. Quand nous avons su qu'ils venaient déposer des ouvriers, des hommes ont pris une grande pirogue qui était là et sont partis pour les empêcher. Mais l'hélicoptère a atterri sur la plage, a rapidement lâché les ouvriers et est reparti aussitôt en les abandonnant, comme qui dirait, à leur triste sort.
Et les pauvres les dejaron ahí, comme que dice allá, aunque les pase lo que sea.
Ils avaient attrapé quatre camarades dans un autre endroit et ils les ont maltraités. Ils voulaient des noms, des noms, des noms. Les militaires en ont attrapé quatre autres d'un autre groupe. Ils les ont rudoyés, leur ont donné des coups de pied, leur ont marché dessus, criaient. Parlez, qui est le chef? Qui dirige? Parce qu'ils pensent qu'ici, il y a une guérilla.
Je m'appelle Patrick Barr, je suis photojournaliste et écrivain. C'est une société française, la Compagnie Générale de Géophysique, qui, pour le compte d'une multinationale américano-argentine, est venue procéder à une prospection, une exploration sismique, c'est-à-dire à l'explosif dans le sous-sol. Et il y a ces images de ces femmes qui ont vu arriver les ouvriers du pétrole. Ce sont elles qui ont été le fer de lance de la résistance. Ce sont elles qui ont entouré les ouvriers du pétrole, qui ont désarmé les militaires et qui ont emmené tout le monde à la communauté et qui après ont rendu à chaque militaire son arme, mais accompagné d'un discours d'explication, d'une force absolument incroyable pour que chaque militaire comprenne pourquoi non, c'est non. Et il y a cette phrase de Patricia Gualinga absolument magnifique que j'adore, c'est « Quelle partie du mot non ne comprenez-vous pas ?»
Nos hommes dans la forêt étaient furieux, mais les femmes leur ont même enlevé les lances qu'ils avaient prises pour que le sang ne coule pas, pour qu'on règle les problèmes avec des mots et avec la seule force de dire non. Nous devons défendre notre terre et nous n'allons pas laisser s'installer les pétroliers pour plusieurs raisons. Comme je dis, comme nous disons, le plus important, c'est la terre. Elle nous fait vivre. C'est notre mère nourricière. L'eau, c'est pareil. Que voulez-vous faire avec de l'eau polluée?
No vamos a ponernos a comprar agua de lo que como están vendiendo afuera y tenemos que comprar. Esto lo podemos gritar en Quito.
Et ça, nous pouvons aller le crier au président à Quito.
Dinero del mundo.
Tout l'argent du monde ne pèse pas devant la terre. L'eau pure, l'harmonie. La vie naturelle. Vraiment, ils sont bêtes, ces gens. Ils ne réfléchissent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas de racines auxquelles se nourrir. Nous aussi, parce que nous sommes nés dans la forêt. Avant, nous vivions comme cela, sans plus de besoins. Aujourd'hui, il y a la modernité, oui. C'est vrai, ça a changé. Mais nous devons quand même continuer à dire et à chanter ce que nous pensons, toujours. Si le poète meurt, alors ce sera différent.
Des années de bataille ont commencé en 2002, après cet épisode, pas seulement de bataille juridique, puisque Sarayaku a déposé une plainte devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, mais de bataille sur le terrain. D'abord de débats au sein de la société de Sarayaku. Est-ce qu'il fallait accepter ou refuser le pétrole? Il fallait aller voir dans les communautés où le pétrole était exploité, comment ça se passait, pour savoir si on allait dire oui, si on allait dire non. Mais aussi de tout ce qui est venu de l'extérieur. Des violences, des enlèvements, des tortures, des meurtres. La rivière, le Rio Bobodassa, fermée par des chaînes avec des cadenas pour pas que les Sarayaku puissent circuler en pirogue. La piste d'atterrissage, fermée également. Les Sarayaku, prisonniers chez eux, d'une certaine façon. Il fallait guetter 24 heures sur 24 pour voir si les prospecteurs pétroliers ne revenaient pas. Toutes les tentatives venues de l'extérieur de déstabiliser la société Sarayaku, de briser sa cohésion sociale, les Sarayaku, pendant 10 ans, ont résisté à tout ça. Moi, je me souviens, j'oublierai jamais, Don Sabino, le Yakchak de Sarayaku, au milieu d'arbres abattus, qui pleure.
C'est absurde
de voir des militaires équatoriens aider à l'installation d'entreprises multinationales. C'est une bêtise. À croire que ces gens n'ont pas de cerveau, ils bradent les richesses de leur pays en s'appuyant sur des militaires qui maltraitent les natifs du lieu. Pourquoi ?
Non.
Impossible, impensable. Nos parents ont cette terre depuis des lustres. Alors pourquoi la lâcher aujourd'hui ? Il faut continuer à la protéger. Surtout que maintenant nous sommes plus instruits et que nous savons que la Constitution nous donne des droits. Cela nous rend encore plus forts.
Les Sariakou résistent et en 2003, l'exploitation pétrolière est suspendue par le gouvernement. Sariakou entame alors une procédure auprès de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour non-respect de la consultation des peuples avant toute exploitation. Un droit qu'ils avaient obtenu en 1992 lors de la légalisation de leur territoire. L'Équateur est condamné à plusieurs reprises. Et il y a 2 ans, l'État équatorien s'est excusé officiellement auprès des 1200 Indiens Sariakou. Pour autant, 1,5 tonne d'explosifs sont toujours enfouis sur leur territoire et le combat continue pour que leurs terres soient déminées. À travers leur lutte, les Sariakou ont créé un cas de jurisprudence et sont devenus un symbole de résistance dans toute l'Amérique latine.
Me llamo Franco Tulio Vitarigualinga, tengo 45 años. He sido autoridad tradicional de Sariakou.
Je fais partie des dirigeants traditionnels de Sariakou.
À l'inicio, hace 10 años cuando empezó la lucha antipetrolera aquí en Sariakou.
Il y a 10 ans, no conocíamos el internet. Au début de la lutte anti-pétrole, nous ne connaissions pas internet.
Internet, el Skype, Facebook, Twitter. Es importante para poder comunicarse.
Sûrement cela change toute ton attitude face à la vie.
Cambio te afecta. Porque cambias de actitud ante el mundo, ya no estás con un machete,
tu n'as plus une machette pour cueillir tes bananes.
Ya no estás en la comunidad, pero al menos con esta herramienta,
mais cet outil te permet
escuchar al mundo,
de dire au monde
lo que tú piensas de
ce que
la
tu
vida.
Ressens de la vie.
Uno de los puntos más importantes,
la communication a été un élément clé
del pueblo de Sariakou,
de la victoire de Sariakou.
Porque nosotros no podíamos ir via las armas.
Ils voulaient nous pousser vers une lutte armée.
Empujarnos hacia un proceso armado.
Mais nous avons dit non.
Y nosotros dijimos que no, entonces fuimos por
et nous avons utilisé la voie pacifique,
una vía de la información,
la voie juridique,
una vía de la denuncia,
la voie de la dénonciation,
la vía juridique,
grâce à l'information.
Con el caso Sariakou, se supone
dans le cas de Sariakou, le gouvernement aurait dû organiser une consultation libre.
Y no lo ha hecho. O sea, prácticamente ha violado
mais en fait, il a violé la disposition de la Cour interaméricaine.
Basándose en el caso Sariakou, por ejemplo. En el caso Sariakou,
ce cas est devenu exemplaire par la suite.
Porque implica de que todos los países a nivel latinoamericano,
car maintenant, tous les pays américains sont obligés par la loi à vraiment consulter les populations indigènes comme les y obligent les instances internationales, comme l'OIT.
Ustedes dicen, el Estado tiene que hacer porque la tierra es del Estado. Estado somos nosotros, señores.
Vous dites que la terre appartient à l'État. Mais l'État, c'est nous aussi, messieurs. Respectez ce que disent les Indiens. La colonie, c'est fini tout ça. Depuis bien longtemps, nous sommes d'autres Indiens.
On pourrait dire que c'est un peu comme le Larzac, si on voulait oser un parallèle. Bien sûr, ce qui est en train de se passer à Sariakou se passe ailleurs en Amazonie. Il y a d'autres peuples qui résistent, pas seulement au pétrole, au gaz, aux minerais, aux grands barrages en Amazonie brésilienne, par exemple. Et après ça, finalement, ce qui est réaffirmé, c'est les droits, non seulement de Sariakou, mais de la globalité des peuples autochtones, dans leur autodétermination à se prononcer pour ou contre l'exploitation des richesses naturelles qui sont sur ou sous leur territoire. Et ce qui fait que finalement, on se retrouve sur un pied d'égalité, quelque part, eux et nous, en France. Eux avec le pétrole, avec le gaz naturel, et nous avec nos gaz de schiste. Et finalement, voilà, maintenant on est à égalité. Et on voit bien, quand on regarde ici la puissance des volontés qui souhaitent l'exploitation du gaz de schiste, on voit bien la force que ça a. Donc on peut tout à fait mesurer ce que ça peut donner contre 1000, 1200 personnes, la volonté de multinationales du pétrole. C'est une pression absolument gigantesque. Et pour résister à ça, il faut une force morale, il faut une cohésion absolument incroyable.
Basta de minimizar.
Ça suffit de nous rabaisser.
Basta.
Ça suffit d'exploiter nos richesses naturelles.
Pero estamos aquí para decir basta ya.
Nous sommes ici pour dire assez, assez.
Vous êtes inter-indigène sur France Inter. Depuis 3 ans, la totalité de l'Amazonie équatorienne est découpée en concessions pétrolières. C'est le 11e appel d'offres qui s'étend sur près de 3 millions d'hectares.
Nous voulons demander à M. le Président qu'il stoppe le 11e appel d'offres pour l'exploitation pétrolière qui porte préjudice à la richesse de la biodiversité.
Un appel d'offres qui suscite un nouveau mouvement de résistance chez les Indiens d'Amazonie et Sariaku à valeur d'exemple.
Pourquoi ont-ils besoin de tant de terres? Mais que vont-ils en faire? Dommage, vous ne nous écoutez même pas. Vous devriez avoir honte. Je suis Mario Santi. Je suis l'ancien président de la communauté. J'ai dit à cette assemblée que l'intervention des compagnies pétrolières devait cesser. J'ai parlé de la perversité du système de cet 11e appel d'offres. Nous devons lutter contre ce décret et faire que les lois soient pour les peuples indigènes et le peuple équatorien. Aujourd'hui, le tourbillon est positif. Les idées, les rêves, les luttes s'ajoutent et la résistance se renforce. Le gouvernement est hypocrite. À Copenhague, il déclare vouloir protéger l'Amazonie et maintenant, avec cet appel d'offres, il se moque de nous. Et livre 3 millions d'hectares de terres indigènes aux pétroliers.
L'économie que le gouvernement pense est de donner tout le pétrole aux Chinois, à la Petrochina.
Il vend tout le pétrole.
Qui está vendiendo?
Mais ce qu'il vend en fait, c'est la vie de nos rivières, la vie de la forêt, la vie des peuples.
Aquí, la única ley que existe es lo nuestro.
Notre seule loi, c'est la nôtre.
Y la fuerza está en que somos libres.
Notre force, c'est notre liberté.
Somos libres, cantamos,
personne
bailamos,
ne peut nous
reímos,
l'enlever.
Lloramos. Esta libertad nadie lo puede quitar. Hay un dicho que salió una vez. Nacimos libres. Somos felices.
Nous sommes libres et heureux.
Lucharemos como fieras por nuestra dignidad.
Et nous lutterons comme des fauves pour notre dignité.
Y por eso las fiestas, el tambor es el
et le tambour
grito de la
est notre cri de révolte.
À l'image des Sariaku, d'autres tribus autochtones d'Équateur s'opposent à leur tour. D'autres procès sont en cours. Une légende raconte que Sariaku, le peuple du Midi, sera le dernier à résister. Tous les 2 ans, c'est au son des tambours que les Sariaku réaffirment haut et fort leur culture et leur identité dans la fête de la lance. Une fête qui rassemble des peuples menacés du monde entier à découvrir la semaine prochaine dans Voyage en Terre Indigène.
Pour eux, la lutte, c'est la même chose que la fête. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir parce que maintenant, c'est Sariaku qui est la référence internationale de la lutte de résistance.
Que eu me tornei invisível. Passei café preto ao teu lado. Fumei desajustado cigarro. Vesti a sua camiseta ao contrário. A Paraguai, as plantas que ali secavam, por isso o cheiro impregnava o seu juízo.
Musicale que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr. Sur notre site, vous pourrez d'ailleurs prolonger ce voyage avec la fondation Barbier-Muller et Guigon Camus qui a rencontré les premiers réfugiés climatiques.
Les Iquilibes, ce sont des insulaires du Pacifique, donc fortement menacés par la montée des eaux et le réchauffement global. Cette montée des eaux, d'ici 2300, 3 mètres. 3 mètres, ça disparaît. Puisque ce sont des îles extrêmement fines, des petites îles de corail, très basses. Ça veut dire déplacer 103 000 habitants. Et bien évidemment, se pose la question juridique et morale du statut de réfugié climatique.
Voyage inter-indigène. Une série d'Anne Pastor. Montage Thomas Loupias et Stéphanie Tseliouko. Mixage Rémi Quincé. Un documentaire réalisé par David Rochier. Merci aux documentalistes de Radio France, à Éric Oswald pour les voix, Marie Guérin, Christine Ligère de France Culture et à l'émission Sur les Docs.
Cette émission a reçu le soutien de la Fondation Barbier-Muller et de l'agence Terra Andina.
La semaine prochaine, à la reconquête de l'identité. Nous irons sur l'île de Sibérout en Indonésie chez les Mentawai et dans la jungle amazonienne chez les Sariaku.
Le voyage continue sur franceinter.fr.